Nous pourrions lire ensemble, chers amis, quelques portions. Premièrement, dans le livre de l'Exode, au chapitre 27e. Livre de l'Exode, chapitre 27. À partir du verset 9. Et tu feras le parvis du tabernacle pour le côté du midi vers le sud, des tentures de fin coton retors pour le parvis de 100 coudées en longueur pour un côté, et ses 20 piliers et leurs 20 bases d'airain. Les crochets des piliers et leurs baguettes d'attache seront en argent. Et de même pour le côté du nord, dans la longueur, tu feras des tentures de 100 coudées en longueur, et ses 20 piliers et leurs 20 bases d'airain. Les crochets des piliers et leurs baguettes d'attache seront en argent. Et pour la largeur du parvis du côté de l'Occident, tu feras 50 coudées de tenture, leurs 10 piliers et leurs 10 bases. Et la largeur du parvis du côté de l'Orient vers le Levant sera de 50 coudées. Tu feras pour l'un des côtés 15 coudées de tenture, leurs 3 piliers et leurs 3 bases. Et pour l'autre côté, 15 coudées de tenture, leurs 3 piliers et leurs 3 bases. Et pour la porte du parvis, un rideau de 20 coudées, un rideau de bleu et de pourpre et d'écarlate et de fin coton retors, en ouvrage de brodeur, ses 4 piliers et leurs 4 bases. Chapitre précédent. Chapitre 26. Dès le verset 15e. Et tu feras des ais pour le tabernacle, ils seront de bois de sittim, placés debout. La longueur d'un ais sera de 10 coudées, et la largeur d'un ais d'une coudée et demie. Il y aura deux tenons à un ais en façon d'échelon, l'un répondant à l'autre. Tu feras de même pour tous les ais du tabernacle. Et tu feras les ais pour le tabernacle, 20 ais pour le côté du midi, vers le sud, et tu feras 40 bases d'argent. Sous les 20 ais, 2 bases sous un ais pour ces 2 tenons, et 2 bases sous un ais pour ces 2 tenons. Et pour l'autre côté du tabernacle, du côté du nord, 20 ais, et leurs 40 bases d'argent. 2 bases sous un ais et 2 bases sous un ais. Et pour le fond du tabernacle vers l'Occident, tu feras 6 ais, et tu feras 2 ais pour les angles du tabernacle au fond. Ils seront joints par le bas et parfaitement unis ensemble par le haut dans un anneau. Il en sera de même. Pour les deux, ils seront aux 2 angles. Il y aura 8 ais et leur base d'argent, 16 bases, 2 bases sous un ais et 2 bases sous un ais. Au verset 36e, verset 36. Et tu feras pour l'entrée de la tente un rideau de bleu et de pourpre et d'écarlate et de fin coton retors en ouvrage de brodeur. Et tu feras pour le rideau 5 piliers de bois de sittim et tu les plaqueras d'or. Et leurs crochets seront d'or, et tu fondras pour eux 5 bases d'airain. Et au verset 31, et tu feras un voile de bleu, de pourpre, et d'écarlate, et de fin coton retors. On le fera d'ouvrage d'art avec des chérubins, et tu le mettras sur 4 piliers de bois de sittim plaqués d'or, et leurs crochets seront d'or. Ils seront sur 4 bases d'argent. Nous lirons d'autres portions. Comme les racines d'une plante lui confèrent sa stabilité, sa prospérité, ainsi aussi les fondements d'un édifice lui assurent sa stabilité. Et nous savons bien combien il importe dans toute construction d'être mettre un soin particulier sur les fondements, sur les bases. Et la considération de ce sujet des fondements est propre à retenir notre attention et constitue un précieux sujet de méditation comportant des enseignements qui, comme tous ceux que nous présente la parole, demeurent actuels. Car nous avons une parole dans laquelle il n'y a rien de suranné. Et les pages les plus anciennes, celles-ci qui remontent à environ 35 siècles, ont une actualité parfaite et divine pour la foi qui s'empare de ces enseignements qui n'ont pas plus de variation que celui qui les a dispensés. Nous ne saurions dire ces pages sont anciennes, elles appartiennent à notre économie et non plus l'actualité ni l'application pour nous, bien au contraire. Et si le Seigneur a pu dire à ses disciples, sondez les Écritures, car vous estimez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Si se joignant aux deux disciples d'Emmaüs, il a pu leur expliquer par les Écritures les choses qu'ils regardent, vous comprenant bien qu'il n'évoquait pas les épîtres d'apôtre Paul. Il ne parlait même pas des évangiles qui n'étaient pas écrits. Et en évoquant les Écritures qu'il y avait de sonder, il parlait nécessairement de l'Ancien Testament. Et les figures, les types, les plus variés, sont là dans leur diversité pour nous entretenir des pensées de Dieu qui remontent à l'éternité, et qui ont Christ pour objet. Et nous pouvons dire que la vie de l'éternité est ornée des gloires divines liées à Christ et à son œuvre. Et toute la parole a pour effet sous la dictée de l'Esprit et a pour but de nourrir nos affections, nous entretenir de celui qui en est le thème, celui du reste, qui venant ici-bas a été la parole faite chair. L'un de nos devanciers a pu dire avec raison que si nous avons lu une page de la parole de Dieu, si ancienne qu'elle fût, sans y trouver Christ, son œuvre et les résultats de cette œuvre, c'est que nous l'avons mal lu. Nous aimerions, avec le secours du Seigneur, considérer réellement, bien sûr, quelques passages qui placent devant nous l'importance des fondements, est-ce là d'une manière particulière en rapport avec la maison de Dieu et la vie du peuple de Dieu. Nous sommes frappés de constater que dans les réalisations successives au cours des siècles, les économies de la demeure de Dieu avec l'homme, dans la narration qui nous est donnée de ces constructions, un accent particulier est mis sur les bases, sur les fondements, sur ce sur quoi cette demeure repose. Comme en témoigne du reste, entre autres, les quelques versets que nous venons de lire dans ces deux chapitres de l'Exode, qui se rattachent, se rapportent aux enseignements que l'Éternel a donnés sur la montagne à Moïse, en vue de la réalisation dans le désert, de cette demeure, bien qu'itinérante, devait démontrer les caractères qui lui sont propres. Et c'est bien la raison pour laquelle il nous a si souvent parlé, avec tant de précision, des bases. Et nous comprenons bien que ces choses ont un aspect pour nous spirituel, un langage moral et spirituel, auxquels il nous convient d'être attentifs. Sur quelle base reposons-nous? Sur quelle base, sur quel fondement reposent nos espérances, nos certitudes, qui ne peuvent être fondées que sur Christ et sur son œuvre? Nous avons lu premièrement dans le chapitre 27, puisqu'il nous est parlé de ce parvis, c'est-à-dire la cour qui entourait le tabernacle, cette première réalisation de l'habitation de Dieu avec l'homme, qui témoigne de sa grâce, de sa condescendance, si nous pensons au fait qu'il est ce Dieu qui habite la lumière inaccessible, que nul œil n'a vu ni ne peut voir, que les cieux ne peuvent contenir, qui a fait la terre pour l'habitation des hommes. Et pourtant, il veut habiter avec l'homme sur la terre. Inversement, cette créature qui est sur la terre, il veut, dans sa grâce, en vertu de l'âme de Christ, en faire un habitant du ciel. Ainsi donc, si nous ne trouvons pas d'habitation dans la Genèse, nous avons des hommes de Dieu qui ont marché personnellement avec leur Dieu, qui ont été animés d'une foi remarquable, si je pense aux Abraham et à tant d'autres, nous ne trouvons pas de demeure ni de marche collective. Il faut pour cela que ce qui représente en figure l'œuvre de la rédemption de soi est établi par l'agneau pascal, par la mise à part d'un peuple appartenant des morts à l'éternel et qui est tiré hors du monde et libéré de l'oppresseur, figure de Satan dans la personne du pharaon, et amené sur un terrain nouveau qui, pour la foi, devient un désert, ce que devrait être ce monde pour nous. Ayant passé la mer rouge qui nous parle de la rédemption. Sitôt après, le désir divin est exprimé, à savoir, comme nous lisons au verset 45 du chapitre 29 de l'Exode, que le but divin, c'était d'habiter au milieu de son peuple. Et il donne toutes les instructions, notamment en rapport avec ce tabernacle. Et on montre à Moïse, sur la montagne, le modèle. La réalisation devait être effectuée exactement selon ce qui lui avait été montré sur la montagne. Tu feras donc le parvis. Cette cour qui entoure la maison et qui est déterminée, qui sépare de l'extérieur par une tenture, soutenue par des piliers, mais nous nous arrêtons seulement sur les bases, sujet de notre considération ce soir, ces piliers reposent sur les bases. De quelle matière sont ces bases? L'airain. Nous savons bien que l'airain est la figure dans la parole de la justice de Dieu contre le péché. Non pas contre le pécheur, contre le péché. C'est ainsi que l'autel était d'airain. Et Israël, qui franchissait la porte, se trouvait confronté, premièrement, à l'autel d'airain, figure de la croix, où la question du péché a été réglée. Quelques pas plus avant d'arriver devant la demeure proprement dite, il fallait passer à la cuve d'airain, une purification par la parole des souillures contractées dans la barre. Toutes ces choses, nous les connaissons par la grâce de Dieu, elles conservent leur valeur pour nos cœurs. Mais ces bases étaient donc des ce qui sépare un peuple appartenant à Dieu de l'extérieur, c'est le jugement du mal. Et au sommet de ces piliers, pour soutenir les tentures, une continuité d'argent. Des chapiteaux d'argent, nous disons par ailleurs, des baguettes et des crochets d'argent auxquels était suspendue la tenture. L'argent nous parle de la rédemption, nous parle de la parole de Dieu, qui est un argent affiné, coulé au creuset, ce foie. Et entre ces deux éléments, la parole de Dieu et le jugement du mal ou du péché, nous avons ce qui constitue la séparation d'un peuple qui appartient à l'Éternel, qui lui appartient en propre, séparé des peuples de la terre, et cette étanchéité à l'égard du monde extérieur, dont la tenture de fin coton, figure de la pureté pratique, en est l'expression. Nous avons donc, quant aux piliers, quant à ce qui constitue cette enceinte extérieure du parvis, 60 bases d'airain. 60 bases d'airain et l'argent qui était au sommet, qui était le produit de ce qui avait été versé par les Israélites pour le rachat, ce que nous trouvons par ailleurs dans le même livre. Nous passons assez rapidement pour envisager quelques autres versets. Dans le chapitre précédent, nous avons vu les bases sur lesquelles reposaient les ais. Les ais qui étaient donc ces pièces de bois tirées sans doute d'un gros arbre, puisqu'elles avaient environ 75 cm de largeur et 5 mètres de haut, et nous pensons bien qu'il n'y avait pas les collages actuels dans ce temps-là. Il fallait donc qu'un arbre soit abattu, jeté à terre et atteint jusqu'au cœur pour avoir cette largeur. N'avons-nous pas, ne serait-ce qu'en cela, le travail de la grâce de Dieu qui, comme il l'a fait, comme le Seigneur l'a fait pour un seul métarse, l'a jeté à terre et l'a atteint jusqu'à l'intérieur, le fond intérieur de cet homme, pour en faire un élément de sa maison. Mais va-t-il se tenir debout sur le sable tout seul? Certainement pas. Il faut encore un fondement. Il faut des bases. Mais ces bases, alors, ne sont plus des vraies. Elles sont d'argent. Des bases d'argent sur lesquelles ces ais sont mis debout. Et combien cela est beau de voir que ils sont non seulement posés dessus, mais ils sont en quelque sorte enchâssés dans les bases, puisqu'il y avait au pied de chaque ais, figure du croyant, revêtu de la justice divine en faveur du pécheur, ce dont l'or est l'expression, ils étaient recouverts et plaqués d'or, ces ais étaient, comportaient deux tenons et chacun d'eux était enchâssé dans l'une des deux bases qui appartenaient à chacun. Ne sommes-nous pas comptés au nombre de ceux qui, par la grâce de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, sont décrits dans les épîtres, tels que celles aux Éphésiens, l'épître aux Colossiens, comme étant enracinés et édifiés en lui. Enracinés, édifiés en lui. Faire corps avec Christ et son œuvre. Les deux tenants étaient enchâssés dans les bases. Fondés dans l'amour. Et par la grâce de Dieu, tenus debout pour être des éléments qui liés les uns aux autres par les traverses qui courent d'un ais à l'autre, intérieurement et extérieurement, constituent cet ensemble de la demeure de Dieu. Figure bien anticipée, mais expressive, du corps de Christ, qui bien sûr n'est pas révélé dans l'Ancien Testament. Deux bases. À quoi peut nous conduire dans la réflexion de ces choses, le langage, la signification de deux bases. S'il n'y en avait qu'une pour les piliers du parvis extérieur, il y en a deux pour les ailes. Ne pouvons-nous pas y voir une évocation des différents doubles aspects qui sont liés à l'œuvre de Christ? Puisque l'argent nous parle plus particulièrement de la rédemption, que nous fait connaître la parole de Dieu? De base, n'avons-nous pas d'une part cette satisfaction donnée à Dieu par l'œuvre de Christ, aussi bien d'une part de sa justice et de sa sainteté que satisfaction quant à son amour et à sa grâce? N'avons-nous pas les deux aspects de la mort et de la résurrection de Christ? Nous sommes morts et ressuscités avec lui. N'avons-nous pas aussi la pensée dans, au nombre de ces nombreux doubles aspects de l'œuvre de Christ? La rédemption, c'est le double aspect de la propitiation et de l'expiation. N'y a-t-il pas aussi l'évocation de la valeur de la victime et de la valeur de l'œuvre? Car pour qu'il y ait une œuvre parfaite, il faut une victime sans défaut et sans tâche. Et notre attention dans les Écritures est toujours portée sur les deux aspects, la personne et l'œuvre. La victime et l'œuvre. C'est la base sur laquelle la foi se fonde. C'est la base sur laquelle seulement le croyant est tenu debout, dans le désert de ce monde, étant par la grâce de Dieu et l'opération de son amour dans sa conscience et dans son cœur, amené, si l'on peut dire, à la mesure d'un élément de sa maison, fondés dans l'amour, édifiés dans le Seigneur, enracinés en lui. Ils sont donc ses ailes, côte à côte, placés debout dans le désert de ce monde, sur lequel ils ne pourraient le tenir isolément et pas eux seuls, mais parce qu'il y a des bases. Ces doubles bases d'argent. Nous avons lu également qu'il y avait le rideau d'entrée qui reposait lui aussi sur cinq bases d'airain, alors que les quatre piliers qui soutenaient le voile séparant le lieu saint du lieu très saint reposaient sur quatre bases d'argent. Nous sommes surpris de constater la présence de l'airain dans ce pourtour de la maison, alors que tout le reste, tous les ailes, comme les piliers qui soutiennent le voile, reposent sur les bases d'argent. Pourquoi même les bases d'airain à l'entrée? N'avons-nous pas un rappel par ce seuil d'airain que franchissait le sacrificateur appelé à œuvrer dans le lieu saint, bien que devant un voile fermé, comme une dernière mise en garde avant d'entrer dans la présence divine. Que chacun s'éprouve soi-même. Que chacun s'éprouve soi-même. Il faut déjà passer à l'autel des reins. Il faut ensuite s'arrêter à la cuve des reins. Mais avant d'entrer dans le sanctuaire, il y a encore un seul terrain. La chair, la souillure, tout ce qui est propre à nous-mêmes quant à notre nature, tout ce qui est propre à ce monde, n'a ni droit ni place dans le lieu où officient les sacrificateurs. Cinq bases d'airain. Mais alors, lorsqu'ils sont devant l'autel d'or, ayant à leur droite la table des pains, à leur gauche le chandelier, lorsqu'ils font fumer le parfum d'encens composé sur l'autel, ils ont devant eux le voile fermé, car le chemin des lieux saints, nous dit l'Épître aux Hébreux, n'était pas ouvert. Mais ils ont quatre piliers qui reposent sur des bases d'argent. Le voile figure de Christ. L'œuvre n'était pas accomplie, le chemin n'est pas ouvert. Mais quatre piliers soutiennent ce voile et sont là comme les quatre éléments, nous pourrions comparer aux quatre évangiles, qui déploient devant le cœur du racheté les gloires de Christ et qui reposent sur ce qui préfigure précisément son œuvre, l'argent. Nous passons plus loin en pensant à l'édification du temple de l'Éternel sous Salomon. Premier livre des rois. Premier livre des rois, chapitre 5, verset 17. Et le roi commanda et on transporta de grandes pierres, des pierres de prix, pour faire les fondements de la maison, des pierres de taille. Verset 7 du chapitre 6. Et la maison, quand on l'a bâtie, fut bâtie de pierres entièrement préparées avant d'être transportées. On entendit ni marteau ni hache. Aucun instrument de fer dans la maison quand on l'a bâti. Fin du chapitre 6, verset 37. Et la quatrième année, au mois de Zif, les fondements de la maison de l'Éternel furent posés. Et la onzième année, au mois de Bul, qui est le huitième mois, la maison fut achevée. Dans toutes ses parties, selon toute l'ordonnance, à son égard, et Salomon l'a bâti en 7 ans. Chapitre 7, verset 10. Et les fondements étaient en pierre de prix, de grandes pierres, des pierres de 10 coudées et des pierres de 8 coudées. Et au-dessus, il y avait des pierres de prix, des pierres de taille, selon les mesures et du cèdre. Nous savons que David avait très à cœur de bâtir ce temple à l'Éternel. Mais Dieu va lui dire les raisons pour lesquelles il ne lui est pas accordé de réaliser ce souhait. Son fils de Bathsheba, entre autres, Salomon pourra construire, édifier ce temple. Nous savons bien que ces deux rois nous parlent de Christ, parmi tant d'autres hommes, car il faut une multitude de types pour évoquer et venir à la rencontre de nos esprits limités, nous faire saisir quelque chose des gloires infinies du Seigneur. Ces deux hommes nous parlent de Christ sous deux aspects très distincts. L'un, Christ, roi rejeté, et l'autre, Christ, roi glorifié, le prince de paix. David a eu à cœur cette maison, il a tout préparé. Et nous connaissons bien sa prière de 1 Chronique 29, lorsqu'il peut dire qu'il a préparé cette abondance. Tout ce qui était nécessaire pour la réalisation de cette demeure, il l'a fait dans son affection, il l'a fait dans son affliction et de toute sa force. Trois caractères qui sont à souligner. Son amour est engagé dans cette œuvre pour préparer dans son affection. Ses souffrances font partie intégrante de cette préparation, dans son affliction. Et tout sa force a été mise à profit pour cette réalisation. De toute sa force, le zèle de ta maison me dévore, on pouvait dire le Seigneur. Mais il n'appartient pas de la réaliser. C'est le roi rejeté. Et nous savons bien que ce n'est pas lorsque le Seigneur a été rejeté sur la terre que son assemblée a trouvé sa réalisation. Il fallait que son âme soit accomplie, il fallait qu'il soit glorifié, ressuscité, élevé dans la gloire. Et si nous avons principalement et prophétiquement devant nous la réalisation de l'Israël futur dans le règne millénaire, en ce qui concerne ce temple de Salomon, nous y voyons aussi quelque chose qui se rapporte au Seigneur rejeté en la ville, au Seigneur élevé dans la gloire, dans la personne de Salomon, lui qui a bâti son assemblée. Les biens sont préparés d'avance. Le Seigneur a tout préparé. Il a œuvré afin que par lui-même, par son œuvre, le résultat du mépris, de la crucifixion, de la réjection de laquelle il était l'objet, mais une œuvre qui a satisfait les exigences d'un Dieu saint, mais aussi les plans de son amour et de sa grâce, nous l'avons dit, les pierres, par cette œuvre, sont appelées, amenées à la mesure. Il n'y a rien à ajouter à cette œuvre de préparation pour qu'elle fasse partie de cet édifice et qu'elle soit des pierres posées sur la pierre de feu. Lorsqu'il nous a parlé des fondements, nous pensons plus particulièrement aux pensées de Dieu, aux vérités divines relatives à la maison de Dieu. Lorsqu'il est parlé du fondement, comme le pouvait le dire l'apôtre, nos pensées s'attachent plus particulièrement à Christ, lui qui est devenu la maîtresse pierre. Les fondements sont posés. Et il est très beau de voir, au verset 10 de ce chapitre 7 que nous avons lu, qu'il y a le fondement, les fondements qui sont les pierres de prix, la base, et dessus, il y a des pierres de prix, elles aussi, posées sur le fondement. Ne sommes-nous pas reportés à ce que peut nous dire l'apôtre Pierre dans sa première épître au chapitre 2, lorsqu'il nous dit, première épître de Pierre, chapitre 2, au verset 4, toutefois, vous avez goûté que le Seigneur répond, duquel vous approchant comme d'une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse auprès de Dieu, vous-même aussi comme des pierres vivantes, et édifiez une maison spirituelle, une sainte sacrificature pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et où est-elle posée, cette pierre pour nous? C'est sur la montagne de la grâce. Ce n'est plus sur le Sinaï. Le Sinaï n'est plus la base pour la foi. C'est la montagne de la grâce. Voici, je pose Ensuite, la pierre est déposée. Nous y reviendrons dans des passages suivants. Si nous pensons à ce que Salomon a réalisé, on peut mentionner en passant qu'il est fait mention ici de quatre maisons qu'il a bâties. Premièrement, et c'est à celle-ci qu'il accorde son énergie la plus grande, c'est la maison de l'Éternel, dont les fondements sont posés au verset 37e, et la maison est achevée en 7 ans. Et si nous lisons par ailleurs ce qui a été préparé, c'est la nature de cette maison qui devait être grande en beauté et en renom, et le nombre d'ouvriers qui y a travaillé, 160 000 environ, nous voyons qu'elle a été réalisée, et cela en pensant aux moyens de l'époque, en 7 ans seulement. Il a bâti une seconde maison, premier verset du chapitre 7, sa propre maison. Une troisième maison, verset 2, la maison de la forêt du Liban, et au verset 8 à la fin, une quatrième maison, la maison pour la fille du Pharaon, que Salomon avait prise pour femme. Ces quatre maisons, sans doute, ont une signification. Nous pensons à la première comme étant la maison de Dieu, proprement dit, la maison de l'Éternel, la maison du Père. Puis nous avons la propre maison du Fils. En Salomon, il bâtit sa propre maison. Je bâtirai mon assemblée, peut dire le Seigneur. Et nous avons la maison de la forêt du Liban, qui était essentiellement faite de bois, avec des colonnes de bois, et c'est là que Salomon avait son siège, son trône, et qui nous parle bien du siège et du trône du roi, là où il exerce l'autorité, pendant le règne. Et alors, dans la dernière, la maison de la fille du Pharaon, en rapport avec le règne millénaire, le règne en rapport avec son influence et les bénédictions qui seront le partage des cieux, puisque la fille du Pharaon n'était pas une femme d'Israël. Ces bases sont posées, et ne pouvons-nous pas penser, lorsque nous lisons de tels passages, à ce verset de Proverbe 9, qu'on nous a dit « La sagesse a bâti sa maison, et en a taillé ses 7 colonnes. » Et nous semblons voir cet ensemble, la vie, la sainteté, la justice, l'amour, la paix, la vérité et la gloire. La maison a été bâtie. La sagesse l'a faite. Y avait-il un homme plus sage que Salomon? Les 7 colonnes en sont taillées. Mais si grand que soient les bénédictions confiées à l'homme dans tous les temps et se demandent, elles montrent toujours en dessous de la mesure qu'elles nous verront. Mais nous aimerions encore mentionner un passage dans le second livre des Chroniques, au chapitre 3, en rapport avec cette même maison. Chapitre 3 du second livre des Chroniques, quelques versets seulement. Et Salomon commença de bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija, où l'Éternel était apparu à David, son père, sur l'emplacement que David avait préparé dans l'air dormant, le Jébusien. Et il commença de bâtir le second jour du second mois, en la quatrième année de son règne. Et c'est ici le fondement que Salomon posa pour bâtir la maison de Dieu. La longueur en coudées, d'après l'ancienne mesure, était de 60 coudées, et la largeur de 20 coudées, et le portique, qui était devant, avait 20 coudées de longueur selon la largeur de la maison, et sa hauteur était de 120 coudées. Si nous avons vu dans la mention des pierres, dans le livre des rois, les bases, si on peut dire matériel, de cette demeure, n'avons-nous pas dans les 2 premiers versets de ce chapitre 3 le fondement spirituel et moral de cette maison, du temple de l'Éternel? Où est-il bâti? Par exemple, on pourrait dire comment est-il bâti ou avec quoi est-il bâti. Mais ici, où est-il bâti? Où repose cette maison? Elle est bâtie sur la montagne de Morija. S'il est une montagne qui rappelle à nos cœurs l'œuvre de Christ, où le Fils unique a été donné, car Abraham offert, s'il lui a été rendu, il l'a offert. Dieu le dit. La montagne de Morija, où ces deux hommes montent, marchant ensemble. Conseil de Dieu, au sujet duquel le Fils était un avec le Père. À la différence que dans le Seigneur, il n'y avait aucune inconnue quant à ce qui était devant lui, alors que Isaac peut dire où est l'agneau pour l'Holocauste. Cette montagne de Morija, où le couteau s'est levé, mais il y a eu un substitut, il ne pouvait en avoir pour Christ. Mais c'est là le fondement. Cette montagne du conseil éternel de Dieu. Et la deuxième mention du fondement moral et spirituel, l'air dormant. Un Chronique 21, entre autres, il nous parle de cette scène où David offre le sacrifice afin que le jugement de Dieu sur le peuple, duquel il était lui-même la cause, soit arrêté. Il faut un sacrifice. David l'offre à l'air dormant. Le sacrifice était créé de telle manière qu'il peut être dit à l'ange de rentrer son épée dans le four. Le jugement est arrêté. Le sacrifice est reçu. Y a-t-il une autre base pour que la maison de Dieu soit organisée? L'œuvre de Christ est le jugement arrêté. Voilà la base qui ouvre cette description dans le livre des Chroniques qui nous parle de l'aspect spirituel et moral. Et tout cela a été préparé dans cet emplacement, sur l'emplacement que David avait préparé dans l'air dormant de Jérusalem. Nous avons cette expression « préparé ». Lorsque le Seigneur demande que la Pâque soit célébrée avec ses disciples, il demande qu'elle soit préparée. Maintenant, tout est préparé. Et la parabole de l'évangile de Matthieu qui invite les conviés à bénéficier de cet accueil et des noces peut dire « Femme, tout est prêt. Mes sacrifices et mes bêtes ont été offerts. Tout a été préparé par celui qui a été rejeté. » C'est ici le fondement. En effet, c'est sur une telle base dont Morija d'une part et Vertonnant d'une part nous donne les caractères. C'est là le fondement. C'est ici le fondement que Salomon posa. Puis il nous a parlé de la maison, il nous a parlé de son portique. Sans doute que l'architecte sera frappé de voir la disproportion du portique, puisqu'il est 6 fois plus haut que large. 120 coudées de haut, 20 coudées de large. Ne voyons-nous pas dans cette hauteur remarquable qui donne à cette maison l'aspect de la majesté de celui qui l'habite comme une évocation, puisque Salomon nous parle du roi de gloire et que nous avons en figure ce qui sera réalisé parfaitement pendant le règne millénaire? N'avons-nous pas une évocation de ce qui suit le psaume 22? Les souffrances expiatoires, en arrivant et passant par le psaume 23 qui nous donne les ressources, au psaume 24 où nous lisons « Porte, élevez vos têtes » et le roi de gloire entrera. Deux colonnes étaient devant, nous savons bien, il y avait l'une qui portait le nom de Jacqueline et l'autre qui portait celui de Boaz. Nous remarquons simplement, comme il est dit, le reste de ces passages, nous disons un peu plus loin, que chacun signifie « il est admirable », alors que « Boaz » signifie « en lui est la force ». S'il s'agit de la force, il n'est pas parlé du futur. Il est la force. S'il s'agit de l'établissement de son règne de gloire, il est futur. Il est admirable. Mais nous disions que tout ce qui est confié à l'homme dans tous les temps, les plus grandes bénédictions, ne change pas son cœur. Et il a toujours démontré son ingratitude, son infidélité et la faillite face à toutes les bénédictions, de quelque nature qu'elles soient, dans tous les temps, ainsi se terminera du reste le règne millénaire. Et nous savons que cette maison a pris fin. Nous assistons, après la chute de Salomon, chute morale, qui nous enseigne, qui nous montre que ni la connaissance ni l'âge ne mettent à l'abri des chutes. On peut avoir les cheveux blancs et tomber dans les convoitises de la jeunesse, c'est ce que Salomon a fait, et nous a dit de lui, au chapitre 10 de ce livre, d'une des rois, qu'il arriva à la vieillesse de Salomon, qu'il tomba dans les convoitises de la jeunesse au sujet desquelles personne n'avait autant mis en garde que lui. Ce qui nous montre que sur le plan pratique, rien n'est jamais acquis. Le royaume est divisé. En Assyrie, sous Shalmaneser, nous savons que 125 ans environ plus tard, ce sont les tribus de Juda et Benjamin qui sont déportées en Babylonie, où nous assistons à ces ministères si remarquables pendant ces 70 ans de déportation d'Ézéchiel, de Daniel. 70 ans de déportation. Et nous savons que le temple est détruit. Ce chiffre de 70 ans n'est pas un chiffre arbitraire. Le pays a été frustré de ses retours sabbatiques 70 fois. Mais la grâce de Dieu mesure tout, et ce temps avait été déterminé, il avait été communiqué au prophète. Jérémie en avait eu connaissance. Et au bout de 70 ans, la grâce de Dieu réveille l'esprit du peuple, il réveille l'esprit de Cyrus, roi de Perse, de telle manière qu'il permet une invitation de libre retour en Judée, soit donnée, soit proclamée. C'est le début du livre des Aras. De telle manière qu'en 536 avant notre ère, environ 50 000 personnes répondent à cet appel. C'est peu, 550 000. Car ils étaient beaucoup plus nombreux qui étaient descendus en lumière. Ceci nous montre que même sous les conséquences de nos péchés, nous pouvons nous accoutumer au gouvernement de Dieu. De telle manière qu'il n'y a que 50 000 qui répondent. Amen. Mais ils remontent sous la conduite de Zorobabel et de Jeshua, fils de Josaphat. Ils remontent en Judée. Que vont-ils trouver? Des rues. Et si le temple de Salomon dans sa splendeur avait une signification, les ruines n'en vont pas moins, mais dans un sens bien différent. Lorsqu'ils arrivent à Jérusalem pour voir ce champ de ruines, ils ont devant leurs yeux les conséquences de leurs inconséquences. Et les gars, bien sûr, le mesurent plus que les jeunes. Ils ont entendu parler de la splendeur du temple de Salomon. Ils ont connu des temps mieux que d'être. Mais nous assistons dans ce chapitre 3 du livre d'Esdras à ce travail remarquable de la réédification de la maison. Et en rapport avec la cause des fondements, nous lisons seulement quelques versets. Chapitre 3 du livre d'Esdras, fin du verset 8. Ils établirent des vébiles depuis l'âge de 20 ans au-dessus pour surveiller l'ordre de la maison de l'Éternel. Alors Jeshua et ses fils, et ses frères Kadmiel et ses fils, les fils de Juda, se tinrent là comme un seul homme pour surveiller ceux qui faisaient l'ouvrage dans la maison de Dieu. Et aussi les fils de Hénadad, leurs fils et leurs frères, les Lévites. Et lorsque ceux qui bâtissaient posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs revêtus de leurs robes, avec des trompettes et des lévites, fils d'Azar, avec des cymbales, pour louer l'Éternel selon les directions de David, roi d'Israël. Et ils s'entre-répondèrent, louant, célébrant l'Éternel, car il est bon, car sa bonté envers Israël demeura toujours. Et tout le peuple poussa de grands cris en louant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Et beaucoup d'entre les sacrificateurs et d'entre les lévites et d'entre les chefs, les pères, les vieillards qui avaient vu la première maison pleurer à haute voix lorsque les fondements de cette maison furent posés devant leurs yeux. Et beaucoup poussaient des cris de joie en élevant leur voix. Et le peuple ne pouvait distinguer entre le bruit des cris de joie et la voix du peuple qui pleurait, car le peuple poussait de grands cris et le bruit s'entendait au loin. En 536 donc avant notre ère, cette troupe arrive sous la conduite de leur conducteur à Jérusalem, et que vont-ils faire en premier? C'est de rechercher le terrain de l'autel. Car nous savons bien que la première chose dans la pensée de Dieu, c'est d'avoir des adorateurs. Le Père cherche des adorateurs. On apprend qu'il n'est pas dit que le Père cherche des serviteurs. S'il prêche, je sois à sa place. Et s'il prêche, je sois le service accompli dans sa dépendance et dans son chemin d'humble obéissance. Le Père cherche des adorateurs. Et lorsque l'Éternel a mis à part un peuple, le tirant hors d'Égypte pour qu'il le serve, c'était dans le sens d'offrir des sacrifices. On va édifier l'autel sur le fondement, il faut déjà chercher l'emplacement, car tout a été détruit. Et la première chose que l'ennemi cherche toujours à détruire, c'est le culte rendu au Seigneur, rendu à Dieu. Car il ne peut bien sûr soutenir que l'on adore celui qui l'a vaincu. Et on va porter atteinte à la maison. Tout est détruit et ces hommes, placés devant ces ruines, ont devant eux les conséquences de leur égarement, de leur transgression, de l'abandon de l'Éternel. Mais le ciel est là, les cœurs sont disposés, et en dépit des obstacles et des difficultés, on se met à l'œuvre. Et on va réédifier. Le fait-on n'importe comment? Pas du tout. On établit, et c'est mentionné plus d'une fois, des surveillants. On pourrait peut-être dire et penser que les temps sont si précaires, lorsque nous sommes dans un état de ruine, il faut être plus indulgent. Il faut, comme on dit, abaisser les barrières. Il faut être plus tolérant et ne pas exiger des choses qui étaient réalisables dans un temps de prospérité et de fidélité. Tout cela n'est pas la pensée de Dieu. Tout cela n'est pas l'enseignement de l'Écriture. Et si nous avons affaire à un Seigneur qui est le même, en amour, en grâce, en bonté, en fidélité, il est aussi immuable en justice, en sainteté. Et c'est un peuple de racheté aux Hébreux qui peut être dit « Notre Dieu est un feu conscient ». Donc nous avons à être conscients que dans un temps de ruine, le Seigneur a les mêmes droits et les mêmes caractères que dans un temps de prospérité. Il n'abaissera jamais le niveau de sa sainteté, mais il donnera des ressources pour que, dans une faible mesure peut-être, mais selon sa pensée, la joie, la bénédiction puisse être retrouvée sur un terrain de sainteté et d'obéissance. C'est ce que nous demandera du reste par la suite la dédicace de la maison qui a été réédifiée. Donc on établit des surveillants, on ne travaille pas à sa guise, parce qu'on est sur un terrain de ruine. Et que peut-on faire? On va poser des fondements. Les fondements sont posés, ceux du temple de l'Éternel. Est-ce que ces choses se font d'une manière légère, d'une manière qui a laissé un certain relâchement? Pas du tout. Bien sûr qu'il y a des éléments matériels, sous la loi les choses étaient matérielles, aujourd'hui elles sont spirituelles, nous n'avons plus besoin de cymbales, comme c'était de trompettes, mais nous voyons les sacrificateurs qui sont revêtus de robes, et qui ont les instruments de musique, ce qui souligne la dignité de ces hommes en dépit d'un état de ruine. La dignité et un désir d'obéissance. Ils vont commencer par quoi? Par louer. Remarquons ce qui est très beau. Première disposition d'un peuple qui revient sur le terrain ou qui recherche la bénédiction perdue, il commence par louer. Louer l'Éternel de ce qui les a ramenés jusque-là, en dépit de ce qu'ils ont sous les yeux et qui témoignent de leur infidélité. Et le font-ils d'une manière nouvelle, changée? Pas du tout, ils le font selon les directions de David. Il y a longtemps que David n'existait plus. Mais nous savons bien que David, c'est un homme de la louange. Les trois fois qu'il est appelé homme de Dieu, c'est quand il met le peuple en disposition de louange. Et c'est selon les directions anciennes, qui n'ont pas subi de changement elles non plus, qu'on loue l'Éternel. Et que dit-on ? Quel est le thème de cette louange ? La bonté de Dieu. Car il est bon, car sa bonté demeure toujours. Alors on pose les fondements. Et que se passe-t-il ? Des manifestations de cet ensemble des hommes qui sont là, les uns qui crient de joie, les autres qui pleurent. Qui a tort, qui a raison ? On le dit plusieurs fois, nous le savons grâce à Dieu, ils ont tous raison. Mais ils ressentent des choses selon leur maturité spirituelle, selon les choses vécues, selon leur disposition, ils ont tous raison. Les vieillards qui avaient vu, nous l'avons lu, la beauté de cette maison de Salomon, et qui voient maintenant qu'il en reste, ou plutôt ce qui n'en est plus, ils ont des raisons de pleurer. Et nous avons des raisons de pleurer sur la ruine du christianisme, et voire même la faiblesse de la maison du nom. Mais lorsqu'on est placé par cette même grâce de Dieu, devant la possibilité avec son secours de réaliser à nouveau quelque chose de ce qui a pu être perdu, il y a lieu de prendre grâce, de louer et de boucher les pieds de joie. Et les jeunes qui n'ont pas connu les temps passés et qui posent leurs pieds peut-être pour la première fois sur le sol des cités, sur cet endroit où il y avait ce temple où l'Éternel habitait entre les chérubins sur le propitiatoire, ils sont là néanmoins, et ils ressentent la grâce de Dieu qui les a ramenés jusque-là, et ils poussent des cris de joie. C'est un concert produit par les dispositions différenciées des cœurs, mais les unes comme les autres sont selon la pensée de Dieu. Quel concert ! Il en résulte même un témoignage dans le monde, le bruit s'entendait tout près. Une question se pose, c'est pour nous. Pensons avec beaucoup d'affection, d'insistance, de sollicitude à la jeunesse. Lorsque les vérités scripturaires de la parole sont rappelées en rapport avec la maison de Dieu, son témoignage, les caractères de ce témoignage, son assemblée, chère au cœur du Seigneur, qui ne cesse de nourrir et de chérir en dépit de ses faiblesses humaines de nous-mêmes, est-ce que lorsque nous parlons de ces choses, que l'on parle de l'assemblée, de ses caractères, et du prix qu'elle a pour le cœur des Christ, est-ce que ce rappel conduit les cœurs de la jeunesse à pousser des cris de joie? Ou est-ce que c'est devenu une voix lassante comme on n'a plus le désir d'entendre? Je veux que les affections soient maintenues en éveil, et qu'en dépit de la précarité des temps, en dépit de la faiblesse qui nous caractérise, en dépit de la ruine de l'Église protestante, en dépit de la faiblesse de son témoignage, qu'il ait la valeur pour nos cœurs, et que nous portions à l'instar d'Israël pieux, Jérusalem, figure de l'Assemblée, au-dessus de la première de nos joies, et que nous désirions véritablement la prospérité dans ces lieux, la paix dans ces palais. Nous devons passer par-dessus d'autres passages pour venir à Matthieu 7, nous saurions le laisser de côté. Le Seigneur s'adressant à Pierre, nous disant ce que nous connaissons par la grâce de Dieu, au verset 18 de Matthieu 16, sur ce roc, je bâtirai mon assemblée. Et les portes du Lyonnais ne prévaudront pas contre elle. En chapitre 14 de Jean, le Seigneur de disciples, je demandais de préparer une place. Il parle au futur. Ici, il parle également au futur. Je bâtirai mon assemblée. Il n'est pas bâti. L'homme n'est pas accompli. Mais il bâtit son assemblée et non pas une assemblée. Il bâtit ce qui lui appartient en propre, son assemblée, celle qui s'est acquise, comme dit Paul en acte 20, par le sang. Cette assemblée était acquise par le sang du propre Fils. Il va bâtir son assemblée. mais il faut que le chemin passe par le morija d'autrefois, par l'herbe dormant de jadis. Il faut que l'homme soit accompli pour que le Seigneur devienne ce qu'il n'était pas. Par son humanité, par son œuvre, le Seigneur s'est acquis des titres, des fonctions et des gloires qu'il n'avait pas avant. Le Seigneur n'était pas l'auteur du salut éternel avant de venir comme homme sur la terre. Il n'était pas non plus le maître expiateur de loin. Il était dans les pensées du conseil de Dieu, mais il est devenu cela. Il est du reste très beau de lire dans bien des passages ce que le Seigneur est devenu. Il est devenu obéissant. Il est entré dans une condition d'homme qui requérait l'obéissance qu'il a démontrée divinement. Il est devenu l'auteur du salut éternel, il est devenu la maître expiatoire de loin. Il est devenu souverain sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisedec. Il n'est pas cela lorsqu'il est venu sur la terre, ou lorsqu'il était auprès de son Père. Tout cela est lié à son humanité et à son œuvre. Il est devenu le fondement de cette assemblée. Et il va la bâtir. C'est son travail, c'est sa propriété. Et nous pourrions nous écrire, comme on le dit en figure, hein, au début du Cantique des Cantiques, sur l'assemblée propriété privée. C'est la maison du Fils, mon assemblée. Et cette expression, mon assemblée, semble elle seule traduire et le privilégié et le privé de la personne. Il ne cesse de nourrir et de chérir son assemblée. Dans le passé, il s'est livré lui-même pour elle. Dans le présent, il la nourrit, il la chérit. Dans le futur, peut-être très proche, il se la présentera lui-même pour l'éternelle joie de son cœur. Le fondement est posé. C'est véritablement la maison bâtie sur le roc. Elle connaîtra les vagues impétueuses, les vents contraires que élèvera l'ennemi contre cette demeure, mais elle est invincible. Les portes mêmes de la mort, les portes du Hadès ne sauraient prévaloir contre elle. Elle ne saurait crouler, elle ne saurait disparaître, elle ne saurait prendre fin. C'est une maison éternelle. Le fondement imposé, nous le connaissons. Et si nous pensons à Éphésiens 2, par exemple, et 1 Corinthiens 3, on peut déjà lire 1 Corinthiens 3, ces passages bien connus sous la plume de l'apôtre Paul. Colossiens 10, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre édifie dessus, mais que chacun considère comment il édifie dessus. Car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui est posé, lequel est Jésus-Christ. Or, si quelqu'un édifie sur ce fondement de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'ouvrage de chacun sera rendu manifeste, car le jour le fera connaître, parce qu'il est révélé en feu. Et quel ouvrage de chacun le feu éprouvera, si l'ouvrage de quelqu'un qui l'aura édifié dessus demeure, il recevra une récompense. Si l'ouvrage de quelqu'un vient à être consumé, il en éprouvera une perte, mais lui-même il sera sauvé, toutefois, comme à travers le feu. Un sage architecte qui a été ce vase d'élection de la part du Seigneur, auquel il a été donné cet extraordinaire de la révélation des mystères cachés des siècles en Dieu, et qui lui seul parlera du corps de Christ, et qui sera celui qui communiquera les pensées divines en rapport avec la vie de cette assemblée. Jean n'en parlera pas, il a un autre domaine. Pierre l'évoquera brièvement, notamment dans sa première épître, comme maison spirituelle pour offrir des sacrifices et exercer une sacrificature. Mais nous connaissons quelle est l'ampleur et la valeur du ministère de l'apôtre Paul. Mais il a travaillé sur le fondement. Il a bien posé le fondement parce qu'il est à l'origine de la mise en lumière, de la révélation des pensées de Dieu, mais afin d'écarter tout équivoque, afin qu'on ne considère pas lui comme étant le fondement, il s'empresse d'ajouter, car il n'y a pas d'autre fondement que celui qui est posé. Ce n'est pas lui qui l'a posé. Il l'est posé, Christ l'a posé. Lequel, dit-il, est Jésus-Christ. Alors sur le fondement des filles, sur le fondement, sur les bases d'argent, les ailes vont être placées debout. Et nous avons un enseignement bien précieux et précis dans les versets qui suivent et qui nous interroge, nous interpelle, nous demandons à nous-mêmes qu'apportons-nous sur le fond. Il y a ceux qui apportent, il y a trois catégories, nous savons, ceux qui apportent de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, toutes les choses de valeur qui peut-être ne font pas beaucoup de volume, mais qui ont une valeur inaltérable et qui soutiennent la sainteté consumante de Dieu exprimée par le feu. Il y a d'autres apports qui sont très visibles, très spectaculaires, du bois du fond du chaume, mais nous savons bien qu'à l'épreuve du feu, il n'en reste rien. Néanmoins, ceux qui se livrent à cette activité sont sauvés parce qu'ils ont travaillé sur le fondement. Et la troisième catégorie, ce sont ceux qui alors apportent des éléments commentaires. Ceux qui sont mentionnés donc dans les versets suivants que nous n'avons pas lus. En Éphésiens 2, il nous est parlé du fondement quant à la réalisation pratique de l'Assemblée. Au verset 19e, ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers ni forains, mais vous êtes concitoyens des cieux, des saints, gens de la maison de Dieu ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la maîtresse pierre du coin, en qui tout l'édifice bien ajusté ensemble croit pour être un temple saint dans le Seigneur, en qui vous aussi vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. Les apôtres ont été à l'origine comme instruments dans la main du Seigneur pour la réalisation pratique de cette assemblée. Notamment Paul, nous l'avons dit. Le fondement des apôtres. Nous n'avons pas d'autre base. Nous n'avons pas d'autre fondement pour nous référer, pour nous y référer quant à la manière de réaliser la vie d'assemblée. Le fondement des apôtres, les enseignements qui nous sont donnés par leur canal. Mais le fondement est la cause sans presse de l'ajouter encore, comme il l'a fait en écrivant aux Corinthiens, le fondement, c'est Christ lui-même. Et tout cela pour que cette assemblée soit un temple saint. Un temple saint au Seigneur. Nous terminons par un passage dans l'Apocalypse 21. Verset 19 du chapitre 21 de l'Apocalypse. Les fondements de la muraille de la cité étaient ornés de toutes pierres précieuses. Le verset 14, c'est la muraille de la cité avait 12 fondements et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de la nuit. Nous ne sommes plus dans une scène laissée à la responsabilité de l'homme. Le temps du témoignage dans ce monde a pris fin. Et dans la vision qui est donnée à l'apôtre Jean, il est appelé à voir depuis ses hautes montagnes la sainte cité de la Nouvelle Jérusalem, la partie céleste du royaume. À laquelle, par grâce, nous sommes destinés en tant qu'enfants de Dieu. Et que nous est-il dit, entre autres, dans ces descriptions si précieuses, figurées de cette nouvelle Jérusalem, ce nom qui, du reste, traduit une certaine liaison avec la Jérusalem millénaire, sur laquelle il y a par deux fois la mention des fondements. Qu'est-ce qui est appelé les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau? Les 12 apôtres qui ont œuvré dans la main du Seigneur pour pour mettre en évidence, établir de sa part ce qui résulte de l'offrande de l'être. Ces fondements qui sont ornés de pierres précieuses, les gloires de Christ, sont pour toujours intimement et indissolublement liés à sa demeure. C'est là que nous allons bientôt entrer. Nous allons bientôt franchir le seuil de la maison du Père et nous ferons partie intégrante de cette demeure qui appartient à la réalisation du propos divin à l'égard de Christ, à l'égard du rachat. Part particulièrement précieuse qui est celle des croyants de l'économie présente. Et nous verrons le Seigneur, l'auteur de la réalisation de l'édifice de la grâce. Nous verrons celui qui est le fondement. Et dans cette cité millénaire céleste, dans cette scène céleste, il est rappelé et non pas oublié ce que ceux que ces apôtres ont fait dans la main du Seigneur, ce fondement des apôtres d'Éphésiens 2 est rappelé même dans la gloire, comme ornant, si on peut dire, par leur nom, le fondement de la nouvelle Jérusalem. C'est là que nous adresserons à l'auteur d'une telle œuvre, au propriétaire éternel d'une telle demeure, dans une scène de laquelle il est lui-même la lampe et la gloire, une éternelle adoration. En attendant, il nous accorde d'être attaché au fondement qu'il nous donne de connaître par sa parole, et nous concluons par la lecture d'un seul verset à la fin de la première épître de Pierre, en comptant pour cela sur les ressources de sa grâce, en lisant au verset 10e du chapitre 5, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans le Christ Jésus, lorsque vous aurez souffert un peu de temps, vous rendra lui-même accompli, vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur un fondement inébranlable. À lui la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen.